I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai eu très peur au début, hein, franchement, je vais pas mentir, c'était vraiment dur. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit, de toute façon, je suis pas censée être là. Les gens sont pas censés m'écouter. Il y en a que ça va saouler sûrement parce qu'ils rentrent du travail, ils vont pas du tout s'arrêter. Et c'est pas grave, je les comprends, moi aussi, j'ai déjà dû faire ça dans ma vie. Et puis il y a ces gens qui vont s'arrêter. Et du coup, j'ai pris le truc de manière... Très enfantine presque. Je suis allée comme un gosse dehors essayer un truc.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine. Ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue du coup. Mais vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Oshi, bonjour, merci beaucoup d'être
Avec moi ici. Je suis contente d'être là, déjà.
Ça fait très plaisir de pouvoir échanger ensemble là pendant une bonne demi-heure pour revenir sur ton parcours et sur les points de bascule de ta carrière, j'ai envie de dire. C'est que le début, on te souhaite que du meilleur pour
la... Je commence dans ma tête, ça va.
Ça commence, il y a déjà beaucoup de choses qu'on va pouvoir évoquer ensemble. Depuis 2017 notamment, tu as sorti un EP, deux albums, une réédition de ton deuxième album qui s'appelle Étoile Flippante. On te connaît peut-être, on t'a peut-être connu avec certains titres phares comme Ta Marinière qui était dans ton premier album ou encore Amour Censure dans ton deuxième album dont on va parler aussi aujourd'hui. C'est super de t'avoir parce que ton parcours honnêtement est ultra, ultra intéressant et ça permet, je pense, de faire connaître évidemment ta musique. Mais je pense qu'il y a aussi plein de leçons via ces points de bascule de ta vie qui peuvent être intéressants, je pense, pour tout le monde. Donc vraiment, merci beaucoup d'être...
Merci de m'accueillir, c'est trop bien.
D'être présente ici et forcément, on va beaucoup parler de ta musique. C'est logique. En commençant par le tout début, qu'est-ce qui fait concrètement que... On a cet intérêt au départ pour la musique. J'ai cru comprendre que toi, ça a commencé notamment avec un artiste, Jacques Brel, et un disque ou un vinyle de Jacques Brel. Ça a été l'une des premières fois que c'est une forme d'attachement pour toi, pour la musique à ce point.
En fait, c'est mon premier souvenir, tout simplement, mais même de vie, quoi. J'étais vraiment petite, j'avais 3 ans vraiment, et je me rappelle de mon papy qui met ce vinyle dans sa chambre et voilà, c'est un peu flou, mais en tout cas en reparlant avec ma mamie, elle me disait que je suis restée des heures à écouter Jacques Brel et en fait ça a duré des années, cette passion pour ce vinyle de Brel avec tous ses classiques en fait.
Il y avait une chanson qui s'appelle Mathilde notamment, ton
prénom. Je croyais que c'était pour moi en fait. Ma mère, elle m'a fait une blague, elle m'a dit il a écrit cette chanson pour toi. Moi, évidemment, j'ai cru, mais bon.
C'est parti de ce genre de truc où on te le dit quand t'es petit, tu penses que c'est vrai et tu le gardes pendant des années en pensant que c'est vrai. Jusqu'au moment où tu te dis ah non, en fait, non, pas du tout.
Ouais, puis c'est un jour où tu te rends compte que Jacques Brel, il était déjà plus là quand t'es né aussi, donc forcément.
Effectivement, il y a une forme d'anachronisme dans la chose. Et du coup, suite à ça, il y a eu toi le début du piano très très jeune, dès l'âge de 6 ans, je dis pas de.
Exactement, 6 ans. Je suis arrivée en CP et je dis à ma mère, je veux faire du piano.
Incroyable.
Je sais pas pourquoi. C'était cet instrument et pas un autre.
Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que ça vient comme ça et ça se transforme ? Je suis notamment souvent curieux de savoir, dès qu'il y a des gens qui ont des passions comme ça, qui naissent très tôt, de comprendre à quel moment est-ce que ça apparaît et qu'est-ce qui fait surtout que ça apparaît et que ça se transforme aussi en un intérêt plus important. C'est pas juste voilà, je fais de la musique et j'aime ça, mais peut-être que c'est peut-être qu'en fait je pourrais en faire, je sais pas si c'est mon métier, mais je pourrais en faire de façon plus large. Toi, tu as senti un moment dans ta jeunesse, j'ai envie de dire, où t'es passé de « oh, j'aime bien faire ça » à « oh, peut-être que je pourrais le faire de façon plus importante ?»
Ouais, en fait, déjà, le piano, c'était quelque chose de sympa pour moi. Ça, au début, j'ai beaucoup aimé, puis à un moment donné, où ça devenait un peu scolaire, le solfège, tout ça. Et moi, je travaillais beaucoup à l'oreille quand j'étais petite. Et du coup, c'était juste une petite passion comme ça, comme une activité qu'on fait en dehors de l'école. Et puis, il y a eu ma mamie qui m'a acheté une guitare acoustique. Et sur le coup, bah, je ne savais pas en jouer, donc je l'ai laissée de côté, sous son lit, et pour être plus précise. Et un jour, je suis retombée dessus. Et c'était la période où je découvrais un peu bah, le rock, voilà, les Rolling Stones, tout ça. Mon père, c'est un ancien punk, donc il me faisait découvrir des groupes.
Et des références sympas.
Ah ouais, carrément. des trucs beaucoup plus trash, genre Exploited et tout. Et en fait, je sais pas, j'ai vu cette guitare et je me suis dit peut-être qu'il faut que je change d'instrument et que j'essaye, quoi, parce que j'avais envie d'apprendre. J'ai toujours eu soif d'apprendre et j'ai commencé à faire bah, de la guitare en fait en regardant des tutos sur YouTube. Et c'est là que je me suis mis à écrire et à chanter. En fait, ça s'est fait naturellement. J'avais besoin, en fait.
Et d'ailleurs, YouTube, comment est-ce que tu le... Enfin, c'est vrai que c'est... aujourd'hui, ça peut être très utile pour apprendre plein de choses. Moi, je le vois, parce que dans mon cas, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Dans tout cas, tu dis que ce serait un outil intéressant pour ceux qui veulent se mettre à la musique.
Jamais pris un seul cours de guitare. Enfin, j'ai essayé, mais ça n'a pas... Enfin, j'en ai pris deux, trois, mais ça, c'était pas incroyable.
YouTube est plus efficace dans certains
c'était
cas.
C'était YouTube. J'avais ma guitare. Franchement, je regardais les accords, je les reproduisais. Et c'est comme ça que j'ai appris avec plein de vidéos de plein de personnes différentes. Et c'est hyper, hyper cool pour apprendre un instrument.
Et ça coûte un peu moins cher aussi, par ailleurs.
Exactement, c'est clair. C'est hyper accessible, du coup, à tout le monde. Et autant s'en servir, quoi. Franchement.
Très, très bien. Si on avance un petit peu, il y a un autre point de bascule qu'on avait repéré qui est important. C'est, en l'occurrence, cette fois, le fruit d'un hasard. La première fois que tu as vraiment chanté, en plus, devant pas mal de personnes d'un coup, ça s'est fait à l'âge de 14 ans. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu tout ça?
Ouais.
Parce que l'histoire est assez marrante.
Oui, puis j'étais vraiment en panique, en fait, on va pas se mentir. Bah ouais, j'avais 14 ans, j'étais en 3e, et puis j'étais dans l'orchestre de l'école, un peu. Voilà, je faisais du clavier dans l'orchestre. Et il y avait une chorale, du coup, que j'accompagnais. Et puis, il y avait une place qui s'est libérée, en fait, pour chanter le lendemain au spectacle de l'école. Et sauf que je chantais pas. Personne m'avait jamais entendu chanter, même pas mes parents. Enfin, c'était pas un truc que je voulais mettre du tout en avant. Et du coup, j'ai appris Zombie des Cranberries à la guitare. Et j'ai même pas réfléchi, j'y suis allée. Je suis allée sur scène. C'était pas ouf, hein, mais il fallait commencer, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, j'ai trop envie de le refaire, ça, en fait. Et c'est comme ça que j'ai appris. C'est en jouant... sur des petites scènes comme ça, à chaque fois, des imprévus que...
T'as créé un groupe au lycée, etc.
Exactement.
Notamment un peu après.
Bah juste après ça, ouais.
Et c'est j'en reviens à cette question-là, parce que ça me fascine toujours, c'est que là, t'es en ce moment, bah, t'es encore lycéenne à cette époque-là, du coup, quand tu montes, par exemple, ce groupe. Quand t'as 14 ans, j'imagine que t'es en 3e ou en seconde.
C'est ça, exactement, 3e, ouais.
C'est à ce moment-là, sans trop le savoir peut-être, mais du coup, tu commences à te forger un vrai intérêt pour quelque chose et qui va devenir par la suite du coup ton métier. T'arrives à savoir le moment où c'est passé d'une passion à essentiellement une perspective plus sérieuse, avec des grosses guillemets, mais potentiel de professionnel?
Bah en fait, quand j'ai monté ce groupe, j'étais hyper intéressée par ce groupe. Enfin, c'était vraiment, ma vie tournait autour de ça, les répètes, même si j'étais la seule à parfois pas y aller. Enfin, j'étais plutôt quelqu'un d'Al-Ouest, quoi, on va dire ça. Mais pourtant, je prenais ma guitare tout le temps quand je sortais et tout. Et puis, il y a eu ce jour où j'ai décidé d'aller jouer dans la rue. J'ai pris ma guitare et j'ai composé des chansons et je suis allée tester mes chansons dans la rue. Quoi. Comme je me suis lancé un défi et je l'ai fait. Puis en fait, je l'ai refait. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça tous les jours. Donc, je savais pas la manière pour y arriver, mais je voulais le faire, quoi.
Et faire de la guitare comme ça dans la rue, comment c'est en termes... Moi, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Ça me paraît plus dur que de faire de la guitare ou de chanter devant une scène de gens qui te connaissent et qui connaissent tes chansons, parce qu'il y a une forme de... Enfin, quand même, aller dehors, chanter, etc., et face à des inconnus, moi, je sais que ça me ferait peur, quoi.
J'ai eu très peur au début, ouais. Hein, franchement. Je vais pas mentir, c'était vraiment dur. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit, de toute façon, je suis pas censée être là. Les gens sont pas censés m'écouter. Il y en a que ça va saouler sûrement parce qu'ils rentrent du travail, ils vont pas du tout s'arrêter et c'est pas grave, je les comprends, moi aussi j'ai déjà dû faire ça dans ma vie. Et puis il y a ces gens qui vont s'arrêter et du coup j'ai pris le truc de manière très très enfantine presque. Je suis allée comme un gosse dehors essayer un truc. Et en fait aujourd'hui quand je compare limite à une scène que je fais où les gens m'attendent, c'est peut-être même pire parce que niveau stress, parce que les gens ils attendent quelque chose de moi. À l'époque j'étais pas censée être là en fait. Donc finalement, je crois que j'avais moins de stress parfois à jouer dans la rue que jouer devant une salle qui t'attend. Non.
Et le regard des gens à ce moment-là, quand tu joues dans la rue, alors c'était quoi? C'était des rues commerçantes près de chez toi? À quoi ça ressemblait? Et c'était quoi du coup le retour des gens, les retours que tu avais à ce moment-là? Comment ça se passait en général?
Alors j'avais deux spots, c'était un juste à côté de chez moi où il y avait le marché deux fois par semaine, donc je me mettais là. Et donc à 50 ans en Yvelines, voilà, dans ma ville. Et parfois, j'allais à la gare. En fait, en fin de journée, j'allais à la gare parce que je savais que les gens rentraient du travail. Ouais. Et puis, bah, y avait les gens qui ne s'arrêtaient pas du tout avec leur casque. Et voilà, il y a ceux qui s'arrêtaient et qui me demandaient parfois « Est-ce que tu peux chanter cette chanson ?» Et du coup, j'apprenais des chansons aussi grâce aux gens qui me demandaient. Voilà, c'était un challenge à chaque fois d'apprendre ou d'essayer de faire un truc qu'ils ont envie d'entendre. Donc, j'étais comme un jukebox un peu, quoi. Et c'était intéressant.
De s'adapter, même, j'imagine, d'essayer de capter l'attention des gens qui, parfois, comme tu dis, sont à la gare, sortent et
ouais,
arrivaient à saisir ce
j'avais pas de micro, j'avais pas d'ampli. Donc, j'essaie de voir le spot où j'avais le plus de résonance et tout, mais c'est, franchement, j'avais pas, rien pour amplifier. Donc, ça m'a permis de chanter fort aussi, quoi.
C'est vrai qu'il y a certains spots, je sais que dans le métro, par exemple, il y a parfois des longs couloirs et on peut entendre le son de l'autre
c'est
bout
clair.
Du.
Ça résonne,
Ça résonne à 300 mètres, on l'entend, et le temps qu'on arrive dessus, on le découvre. Donc, il y a souvent des spots intéressants pour les artistes à chaque fois. Si on avance un petit peu, ça nous amène un peu à un troisième point de bascule important. Ça a été un refus de ta part, le refus de participer ou de continuer à participer à The Voice. En fait, juste avant, pour expliquer, juste avant les auditions à l'aveugle, tu claques la porte donc de cette émission qui est très connue, qui est diffusée sur TF1. Il y a beaucoup d'artistes en soi qui souhaiteraient faire The Voice. Pourquoi est-ce que toi, t'avais décidé de quitter l'émission?
Bah, c'était pile à la période où je jouais dans la rue, où j'étais encore au lycée, j'avais 16 ans. Mes parents s'inquiétaient beaucoup de mon avenir professionnel, entre guillemets, parce que moi, je leur disais je veux faire de la musique, mais pour eux, c'était pas vraiment un métier. Et normal, personne ne fait de la musique dans ma famille. Donc, du coup, j'avais cette pression. Et il y a j'ai les auditions de The Voice, enfin, en tout cas, ceux qui s'en occupent, qui m'ont contacté. Et j'ai fait le premier casting. Et en fait, après, on m'a demandé de chanter une chanson, Le Petit Bal Perdu, de Bourvil, et je savais pas comment la reprendre et tout. Et puis il y avait beaucoup, je sentais que tout était un peu imposé et ça m'a pas plu, donc on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une chanson, et puis du coup j'ai arrêté.
Et suite à ça, t'as eu, parce que on va le dire après, t'as participé à une autre émission,
ouais, concurrente,
quelques mois après, concurrente, qui s'appelle Rising Star sur M6. Mais quand tu fais ce choix de quitter une opportunité pareille, on sait que le domaine artistique, comme plein de domaines, c'est des domaines où c'est difficile forcément d'émerger et de claquer la porte du coup comme ça et de se dire non, je refuse telle ou telle chose. Forcément, ça demande du courage d'une certaine façon et ça peut amener aussi des remises en question. De ton côté, comment est-ce que ça s'est fait cette décision-là? Et est-ce qu'après ça, tu as eu des regrets? Est-ce que tu as eu des craintes? Comment ça s'est.
J'ai jamais regretté.
Entourage,
mais j'ai jamais regretté, mais par contre, dans mon entourage, les avis étaient mitigés, quoi. Ouais. Genre, ils me disaient, mais attends, mais là, t'allais peut-être toucher ton rêve du bout des doigts, et tu fais ça, mais en fait, ça me ressemblait pas, et je voulais pas mentir aux gens, et en tout cas, aujourd'hui, je fais toujours les mêmes choix. Parfois, on comprend pas les choix que je fais dans mon label et tout, je fais des choix assez instinctifs, et j'ai toujours suivi mon instinct. Je me suis trompée parfois, mais en tout cas, quand je me suis trompée, j'ai pas regretté parce que c'est toujours quelque chose. Pour moi, la musique, faut être sincère, il faut que ça vienne du cœur. Et là, j'allais pas le faire avec mon grand cœur, quoi. Je pouvais pas.
Donc, c'est fort. Et on peut imaginer, comme tu le dis, les retours de certains proches ou autres qui disaient, mais attends, parce que c'est The Voice et tu refuses The Voice.
C'est pour ça que j'ai accepté Rising Star après, où on m'a laissé plus de liberté sur le choix de chansons et tout, mais du coup, j'ai pas aimé quand même. Enfin, déjà, ça a été un flop, l'émission, on va pas se mentir.
Ouais,
mais bon, c'était bien quand même, mais j'ai pas aimé faire ça.
Pour émerger en tant qu'artiste aujourd'hui, quelles seraient pour toi les clés, je ne suis pas sûr qu'il y ait de règles d'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas, mais tu vois, là on parle d'émissions Rising Star, The Voice ou autres qui existent. Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui pour émerger? Est-ce qu'on peut émerger uniquement avec les réseaux sociaux par exemple? Comment est-ce que toi tu vois la chose aujourd'hui?
Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils et c'est vrai que c'est dur de se dire ok, je me lance sur un outil en particulier. Je pense qu'il faut essayer d'être un peu partout, mais c'est vrai que pour moi le principal c'est d'avoir les chansons et d'avoir la bonne vision de son projet. Aujourd'hui, on est à The Voice, je sais pas, une bizantième The Voice. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait. Il y en a qui ont réussi à sortir de cette émission gagnant, et pas forcément en gagnant l'émission d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup, oui, ça peut être un truc cool à faire. Mais pour moi, il faut aller à The Voice si t'as ton projet qui est quasiment prêt derrière. Parce que sinon, tu t'arrives, tu fais des reprises, et juste après, tu vas peut-être avoir des maisons de disques qui vont te contacter et tout ça, mais t'auras rien à proposer et du coup, t'auras pas vraiment ton univers très précis. Si j'ai le seul conseil, c'est le seul conseil que je peux donner aux gens qui veulent faire The Voice, par exemple.
Et plus largement, après, c'est assez intéressant de voir dans ta situation, en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, la crainte, voire la pression parfois que peuvent mettre ton entourage, parce qu'on le disait, tu peux avoir des proches qui s'inquiètent pour toi, qui se disent ouais. Mais artiste, c'est compliqué quand même, on peut avoir la même chose, je pense, dans le domaine du cinéma ou dans plein d'autres. Jusqu'où, en fait, aller pousser ce rêve et aller pousser tout ça? Toi, est-ce qu'il y a des moments de doute que tu as eu où tu t'es posé cette question-là, et comment est-ce que tu faisais pour continuer?
Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup encore aujourd'hui. Enfin, en fait, avant de, entre guillemets, percer, voilà, de pouvoir vivre de sa passion, tu as peur que ça n'arrive jamais. Les proches ont peur que ça arrive jamais. Donc, il y a une sorte de pression autour de ça. Et une fois que ça arrive, bah, soit tu as peur que ça s'arrête, soit les proches ont peur de ce milieu qui est un peu voilà, bizarre pour eux parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a toujours de la peur, mais il faut toujours aller au-delà. Et en tout cas, si les gens qui nous regardent, là, certaines personnes ont ce rêve, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout parce que là, pour le coup, ça serait le plus gros regret de leur vie de ne pas essayer.
Ouais. C'est ça l'élément, je pense, qui est important, je pense, dans tous les domaines aussi, c'est le fait d'essayer. Et par ailleurs, il faut aussi être très conscient que oui, bah, évidemment, tous les projets n'aboutissent pas. Tous les projets, si vous voulez rêver de faire The Voice, tout le monde ne fait pas The Voice, malgré le fait que beaucoup de gens veulent le faire. Et je pense que c'est toujours aussi important de le dire, que oui, de fait, c'est compliqué. Il y a très peu d'élus avec des grosses guillemets dans tout ça, mais au moins avoir l'envie de le faire, et si on veut le faire, ça, c'est quelque chose qui est assez...
Faut le faire, ouais, et préparer bien des chansons avant, voilà, un petit univers, un truc à balancer direct après votre sortie de l'émission, parce que ça, c'est vraiment un vrai conseil. Ouais. Sinon, après, il y a un moment de blanc pendant des mois, et c'est à ce moment-là que c'est les downs en général.
De gérer la suite, ouais, d'une émission Exactement. Comme ça, d'arriver à rebondir. Et
toujours préparer la suite avant d'avoir fait les choses, en fait.
Dans ton cas, il y a certaines musiques qui ont émergé, qui t'ont fait connaître. Je pense notamment à Ta Marinière, qui était un titre de ton premier album. Je pense d'ailleurs que je t'ai connu avec celui-ci, comme beaucoup de personnes. Donc ce titre, ça a été un des titres, si ce n'est le titre, je pense, qui a fait exploser ta carrière et t'a fait connaître vraiment au grand public. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire derrière ce titre? Est-ce que tu t'attendais à avoir un tel succès?
Franchement, je pense qu'on ne s'attend jamais à avoir du succès. C'est pas un truc normal de s'attendre à avoir du succès. Mais en tout cas, cette chanson, elle est née. Je rentrais de soirée et j'ai vu une marinière accrochée dans ma chambre. Et je suis un peu partie en trip autour de tout ça et des jeux de mots autour de ça. Et je l'avais oublié. Et c'est quelques semaines après, en voyant une dame avec une marinière dans la rue, en jouant, que je me suis dit, j'avais oublié que cette chanson-là. Et j'ai commencé à faire les accords et à la chanter dans la rue. Et elle est née comme ça. Et en fait, au final, elle a marché, mais peut-être 3 ans après de l'avoir écrit, quoi.
Tu l'as chantée déjà dans la rue?
Ouais, je l'ai chantée dans la rue.
C'est incroyable.
C'est vraiment la chanson. Je crois que j'ai signé grâce à cette chanson, mais c'est pas celle qu'on a sortie en premier. Et je sais pas, cette chanson, moi, je sentais qu'il y avait un truc en plus un peu que les autres.
Comment tu l'expliques d'ailleurs, le succès de celle-ci? C'est toujours difficile parfois d'analyser une chanson comme ça et le succès, mais t'arrives à voir qui a fait qu'elle plaît autant?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. En tout cas, quand j'ai analysé mon public en concert, il y avait déjà les enfants qui aimaient bien, parce qu'il y a le chant lexical de la mère dedans, et je voyais à chaque fois les gosses pendant mes concerts qui hurlaient, donnaient à bouffer aux poissons. Mmh. Voilà, je pense que le bouffer, voilà, qu'ils n'ont pas trop le droit de dire, je pense, tous les jours. Du coup, il y a ce mot-là, je pense, qui a fait marcher la chanson avec les gosses et tout. Et puis, je sais pas, le thème, en tout cas, la marinière, tout le monde a une marinière chez soi. Après, voilà, analyser une chanson qui a marché, je sais pas, mais en tout cas, c'est une belle histoire.
Une très, très belle histoire, effectivement. Et parmi les éléments, là, on avance dans ta carrière et dans ces nombreux succès. Et ça permet aussi de faire découvrir certaines de tes musiques un peu plus anciennes avant de parler des plus récentes que tu as sorties plus récemment. Mais il y a eu aussi une autre chanson qui a été un point majeur et que moi, j'ai beaucoup écouté, qui a été Amour Censure, qui a été... Pour faire simple, un appel à la tolérance, à tout point de vue, qui a été porté dans cette chanson, et avec des paroles très belles, une chanson plus largement qui est très, très, très belle, que j'ai vraiment aimée. Et s'il y a eu un élément déclencheur à ça, c'était des manifestations, des manifs contre la PMA, qui était très importante à l'époque, la PMA pour toutes les femmes. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à écrire cette chanson-là après tout ça?
Déjà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une chanson sur ça, mais je m'étais pas outée, en tout cas, j'avais pas fait mon coming out dans mon projet, en tout cas, enfin, bien sûr, dans mes amis proches, tout le monde le savait, mais publiquement, non. Et du coup, il y a eu ce outing de Paris Match que j'avais subi juste avant, et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, les gens, mon public sait, entre guillemets, même si j'avais pas trop confirmé. Et moi, en fait, quand j'étais ado, j'ai vécu 2 agressions à cause de mon homosexualité. Et ça a été quelque chose de dur à... Je les ai effacées, je les ai rangées dans des cases, ces agressions, et j'ai plus jamais trop voulu en reparler. Même, c'était un sujet un peu tabou, même avec mes parents, tout ça. Enfin, c'était pas un truc que je voulais pas en reparler, en fait. Ouais. Et puis, il y a eu ce deuxième album. Donc, j'ai fini le deuxième album et je suis partie en vacances avec un ami qui s'appelle Marc, voilà, un de mes meilleurs amis, et qui est gay, lui aussi, et avec qui, surtout, on écrit de la musique ensemble. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'écrire sur ça, en fait, sur l'homosexualité, sur contre l'homophobie, évidemment. Et il y avait à cette période toutes les manifestations, et c'est ça qui m'a tout redéclenché, et ça m'a mis dans un mal-être profond. Et je me suis dit, je fais cette chanson, mais l'album était fini. Et qu'en fait, quand on a fini la chanson, j'ai décidé de la sortir presque. C'était pas prévu, quoi. C'était pas un single normal. En fait, on l'a sorti, on a été dans les manifs, on a filmé avec nos iPhones, et voilà, on l'a sorti sans idée marketing ou quoi derrière, quoi. Ça venait du cœur, et c'était risqué, en fait. D'ailleurs, j'ai perdu un peu de public à ce moment-là, parce qu'il y avait forcément des gens homophobes qui m'écoutaient, qui savaient pas que j'étais homosexuel. Donc, forcément. J'ai perdu du public, mais en fait, j'ai l'impression que j'en ai gagné un autre aussi. Donc, c'était un risque, mais j'ai voulu le prendre.
Et surtout, ouais, on peut imaginer que tu as reçu aussi potentiellement beaucoup de commentaires, de messages, de gens qui, à l'inverse, ouais. Genre, n'étaient pas homophobes, mais au contraire, soit témoignaient de leur soutien, même de leur côté, de se reconnaître d'une façon ou d'une autre dans ta musique.
Encore aujourd'hui, ouais. C'est incroyable. En ouais. fait, cette chanson, elle a eu tellement de vie. En fait, là, je vois comment elle a voyagé en 2 ans. Les gosses qui se reconnaissent dedans, les familles qui ouvrent le sujet grâce à cette chanson, c'est incroyable, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, mais je pensais pas que ça parlerait à autant de personnes, donc ça m'a beaucoup émue, en fait.
Ouais, ça montre aussi la puissance de à quel point une musique peut sensibiliser sur un sujet, et parfois d'ailleurs, je pense que ce qui est intéressant, je trouve, avec la musique, c'est qu'on peut entendre à la radio une musique, l'entendre passer une fois, puis deux fois, puis trois fois, et au bout de la cinquième, on va se mettre à écouter les paroles. Et c'est là qu'on va découvrir, en fait, le sens derrière, et ça va prendre une portée particulière ensuite, quoi.
J'ai eu un message incroyable à ce ouais. sujet-là, c'est que c'était, en fait, je pense que c'est une mère de famille qui écoutait cette musique en boucle et qui n'était pas hyper OK, voilà, justement, avec l'homosexualité, sauf qu'elle l'écoutait en boucle, et à un moment donné, elle s'est rendue compte du thème, et du coup, ça a totalement changé sa vision des choses. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu marrant, parce que je me suis dit, en fait, la meuf, elle a dû l'écouter, je sais pas... dizaines de fois sans capter le sujet.
Au début inconsciemment jusqu'au moment où voilà, on réalise les paroles.
C'est incroyable.
On est déjà happé par la musique et on découvre les paroles, et ça vient renforcer tout ça. Et ça montre encore une fois la puissance de la musique. Et si on avance un peu plus récemment, il y a eu ta performance aux Victoires de la Musique il y a quelques jours, que j'invite tout le monde d'ailleurs à écouter ou à voir si vous ne l'avez pas vu. Mais on en vient du coup à un autre point de bascule qui est important et que je voulais voir avec toi. Ça a été une annonce qu'on t'a faite, je ne sais plus parler. Mais bon, une annonce, ça a été une annonce que toi, tu as traduit par le biais d'une sorte d'enregistrement et de notes vocales lors des Victoires de la Musique. Je propose qu'on puisse écouter le son dans un premier temps pour comprendre déjà ce qu'il en est. Puis après, du coup, on va pouvoir en parler. On écoute du coup dans un premier temps cette note vocale en question, et on en parle juste après.
Bonjour mademoiselle, c'est votre ORL. Je viens de recevoir vos résultats et j'ai pas de très bonnes nouvelles. Vous avez déjà perdu 50% d'audition sur les deux oreilles. J'ai peur que vous puissiez pas faire ce métier toute votre vie. Appelez-moi.
C'est donc un extrait qui avait été diffusé aux Victoires de la Musique il y a quelques jours, juste avant ta performance d'une de tes musiques où tu traites justement de ce sujet-là, oui. Avec Fémoitine, qui est le son en question. Tu as appris que tu étais atteinte d'une maladie, la maladie de Ménière, qui se caractérise notamment par des vertiges, par des acouphènes, par une baisse d'audition aussi, une incapacité de pouvoir prendre l'avion aussi, alors que Oshi, on l'a pas dit, mais ça vient du japonais, t'as un intérêt pour le Japon.
Complètement, je rêve d'y aller, je vais y aller, ouais. Mais autrement, ouais. Quoi, en transsibérien.
Et cette maladie-là, déjà, comment est-ce que t'as réagi à l'annonce de cette maladie, comment ça s'est fait et comment est-ce que tu as réagi à ça?
En fait, j'ai eu beaucoup d'étapes autour de mes oreilles, voilà, dans ma vie. J'ai eu, quand j'étais gosse, je perdais déjà un peu d'audition et j'avais des otites séreuses à répétition. C'est fréquent chez les enfants, voilà, mais à un moment donné où c'est censé s'arrêter. Et moi, en fait, j'ai une malformation de la trompe qui relie le nez aux oreilles. Et du coup, voilà, donc j'ai eu plein d'étapes dans mon enfance où on me disait à chaque fois c'est chaud, enfin voilà, j'ai été opérée 6 fois, on me mettait des aérateurs, voilà, parce que j'ai des problèmes de pression. Et puis après, j'ai un peu tout mis de côté. Je me suis dit, je vais plus chez l'ORL, comme ça, on ne me dira plus rien. Et puis bah, j'ai commencé la tournée là, sur le premier album. Et en fait, au bout de, je sais pas, une cinquantaine de dates, j'ai commencé à avoir des vertiges, à ne pas me sentir bien sur scène. Et voilà, à la fin, on se demande, est-ce que c'est psychologique, est-ce que, enfin, on ne sait pas, quoi. Mais j'allais bien sur scène avant, donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et surtout, je n'entendais pas bien. Et donc, il y a eu ce concert où j'ai dû arrêter... avant la fin du concert, j'arrivais plus, j'allais tomber, quoi. J'avais en fait une crise de Ménière qui se déclenchait, mais je savais pas à l'époque que j'avais ça. Et donc, j'ai fait plein de... J'ai vu vraiment beaucoup d'ORL. J'ai dû en voir une quinzaine, franchement. Et à chaque fois, on me disait, ah, vous n'avez pas choisi le bon métier. D'où, le... Bon, de manière ironique, hein, mais c'est vrai qu'on se le prend dans la tête à chaque fois. Et voilà, il y a 2 ans, bah, on m'a diagnostiqué la maladie de Ménière.
Et comment est-ce que tu réagis à ce moment-là? Comment est-ce que tu le vis? J'imagine que c'est un moment forcément qui est dur. En même temps, ça vient mettre des mots peut-être.
Exactement. En fait, ça n'a pas été si dramatique ce moment où on m'a enfin mis un mot sur mes vertiges et sur les crises que j'avais de manière récurrente. Parce qu'à la fin, je ne savais plus si ça venait du cerveau, des oreilles. Enfin, voilà, il y a des symptômes tellement bizarres que la première fois où j'ai eu ça, j'ai cru que je faisais un AVC. Quoi. Vraiment, c'était violent. Donc, ça m'a rassuré en fait qu'on mette un mot. Après, voilà, genre, quand tu demandes, bon, bah, faut faire quoi maintenant? Et qu'on te répond, bah, il y a des traitements pour apaiser, mais on peut pas guérir. Là, c'est plus genre parce que je me dis, ok, jusqu'où ça va s'arrêter cette perte d'audition? Et bah voilà, j'en suis encore là aujourd'hui, je sais pas. J'ai fait un test il y a environ un mois, et voilà, c'est là qu'on m'a dit que j'avais perdu définitivement 50% d'audition et que je devrais être appareillé. Sauf que c'est très compliqué avec la scène de me faire appareiller.
C'est forcément quelque chose qui doit être bah, dur, évidemment, donc c'est ce que tu viens de dire dans ta situation à toi aussi. Et toi, comment est-ce que tu le vis du coup maintenant au quotidien? Ça se traduit par quoi? Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Parce que c'est vrai que moi, j'ai en l'occurrence pas du tout c'est grave, mais j'ai un acouphène en permanence à l'oreille droite bien, bien présent. Et je sais que rien que ça, moi, juste en écoutant de la musique, bah, je sais à quel point ça peut être perturbant. Toi, comment est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que ça veut dire que tu as dû adapter ta façon de travailler? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû changer?
Bah, j'évite d'écouter justement de la musique au casque toute la journée, mais bon, enfin, c'est aussi mon métier, donc c'est pas facile. Genre, et puis j'adore la musique, j'adore découvrir des artistes, donc c'est assez dur, j'avoue que je respecte pas trop le truc, quoi. Et après, sinon, c'est aménager mon emploi du temps. Du coup, je fais plus que 2 concerts d'affilée. J'ai arrêté d'en faire 3-4, parce que c'est, clairement, mes oreilles ramassent trop à chaque fois. Et j'essaye de dormir, mais c'est là que vient le problème des acouphènes, où j'en ai vraiment beaucoup, et sur plusieurs tonalités, donc c'est vraiment chiant. Et voilà, donc je mets des livres pour m'endormir audio, voilà, des podcasts aussi, voilà, des petits fonds. Mais voilà, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, mais voilà, il faut vivre avec. Et voilà, en tout cas, à chaque fois, j'essaie de tout donner. Et maintenant que j'ai mis le mot sur le truc, je sais que quand ça m'arrive, une crise peut durer de franchement 20 minutes à 10 heures. C'est assez fou. Voilà, et puis l'anxiété, forcément, ça joue beaucoup, donc j'essaye d'être zen le plus possible, quoi.
Ouais, ce qui n'est pas évident, c'est que oui, tu le couples aussi à un rythme parfois que tu as en tant qu'artiste.
Ouais, c'est très anxiogène, en fait. Enfin, ouais. Moi, je suis très vite anxieuse aussi, donc forcément, j'essaye d'aménager et de ne pas trop faire d'affilée, parce que sinon, à un moment donné, je burn et c'est là que ça part en cacahuète.
Et t'en parles du coup dans ce son-là qui s'appelle Fais-moi signe, qui est un des titres de ton album Sommeil Levant. Donc ouais, on voit à quel point c'est quelque chose d'important. J'invite du coup à écouter ce son en question qui est très beau et qui met des mots sur ce que tu ressens, mais sur ce que ressentent aussi peut-être d'autres personnes, parce que ça t'évoque du coup plus largement la question de la surdité ou des problèmes d'audition et qui peuvent en soi
être... Ça touche énormément de personnes, voilà. En fait. Hein, au-delà de la maladie de Ménière, la surdité, même chez les jeunes, hein, de plus en plus jeunes. Donc ouais, c'est clair. En tout cas, même si ça peut montrer à ces gens-là qu'ils sont pas tout seuls, quoi, et que ça n'empêche pas de faire de la musique et ça n'empêche pas de vivre. Hein, donc,
Sur une note plus positive, on venait de parler à l'instant des victoires de la musique. Tu y étais aussi, c'était en 2020, il me semble, il y a 2 ans notamment. Tu y étais encore cette année. Enfin, tu y étais déjà plus d'une fois. Quand on voit du coup ton parcours et le fait qu'en très peu de temps, au final, t'as émergé. Comment est-ce que toi, est-ce que tu as déjà à prendre du recul par rapport à ta situation aujourd'hui et par rapport à ce que tu as accompli, par rapport au fait de, même on en disait, hein, de transmettre de tels messages et d'arriver à émouvoir et à toucher des cœurs d'une façon ou d'une autre? Est-ce que déjà tu es consciente de ça aujourd'hui ou est-ce que tu n'arrives pas à avoir ce recul-là?
Je ne l'ai pas trop à la base. En fait, j'ai conscience que j'ai de la chance en tout cas et que je vis un truc complètement dingue. Mais j'ai pris vraiment conscience de tout ça quand j'ai arrêté la première tournée, donc après 150 dates, et je me suis dit, waouh, on a vécu un truc de fou, là. Et là, j'ai repris, là, après le Covid, en fait, surtout que c'est là que j'ai repris vie, en fait. J'ai vu les gens chanter, en l'occurrence, Amour Censure, où j'étais un peu, je l'ai sorti, mais je ne l'avais jamais joué sur scène. Et j'ai vu les gens tellement heureux de me retrouver. Et moi, j'étais tellement heureuse de les retrouver que là, je me suis dit, j'ai trop de chance. Et là, j'ai pris le recul à ce moment-là, en fait, quand je suis sur scène et que je vois les gens chanter les chansons, et je me dis à chaque fois que j'ai de la chance vraiment, quoi.
Ouais, c'est marrant, parce que tu le vois, certains pourraient prendre le recul quand ils sont chez eux, machin.
Non, j'ai peur à ce moment-là de prendre un. C'est tellement grand ce qui m'arrive que toute seule, si je commence à penser à ça, je panique, en fait.
Et comment tu fais, du coup, t'es accompagnée dans ton. C'est quoi? C'est des amis, c'est des proches, c'est ton entourage qui est là aussi pour toi dans ce genre de. de situation, comment ça se passe?
Mes amis, ils sont là pour moi dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Quand on se voit, on n'aborde pas spécialement ma carrière, entre guillemets, c'est pas... On n'en parle pas, même. Ils sont même pas au courant de ce que je fais. Franchement, c'est juste mes potes d'adolescence, et voilà, j'ai gardé les mêmes. Ma famille, j'ai ma mamie, c'est ma plus grande fan, qui est toujours en train de parler de moi. D'ailleurs, j'ai fait un feat avec elle sur mon album, donc voilà, je retrouve beaucoup de soutien chez elle. Beaucoup d'écoute et évidemment ma manageuse qui est tout le temps avec moi, qui est aussi ma copine, donc voilà, c'est mon plus grand soutien, moi, aujourd'hui. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui me soutenait autant,
professionnel et personnel, donc,
complètement. Mais du coup, enfin, ouais, en fait, c'est génial ce qu'on vit, parce que toute la journée elle est avec moi, donc elle me soutient dans tous mes choix artistiques, et après dans les choix personnels ça interfère un peu, mais c'est cool parce que du coup on peut tous dire, en fait.
Et puis, de fait, de toute façon, quand t'es artiste, il y a quelque chose forcément d'intime et de personnel. Donc, il n'y a pas de vraie distinction possible.
Non, il
n'y
en a pas, en fait. Les deux sont... Je ne pense pas. Il y a peut-être des artistes qui arrivent à faire à mettre les deux de côté. Moi, je n'arrive pas.
Et on parlait tout à l'heure, en début d'échange, de The Voice, de ses modèles, de ses codes parfois, de ce fait de se voir imposer certaines choses. Comment est-ce que tu fais, toi, dans ton cas, pour arriver à garder cette liberté de création et être libre de ce que tu veux faire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible même? Comment est-ce que tu vois ce sujet-là?
Artistiquement, avec mon label, avec tout ça, oui, ça va, parce que, enfin, on est dans la même équipe, quoi, donc c'est cool. Après, voilà, dans les émissions télé, les radios, tout ça, il faut faire des compromis tout le temps, et moi, j'ai du mal à en faire, et ça pose vraiment problème, c'est vrai. Après, j'ai mis de l'eau dans mon vin aussi depuis le premier album, et voilà, après, en tout cas, quand je sens vraiment pas un truc, c'est un non catégorique, et là, ça peut être des montagnes de problèmes, mais c'est pas grave. J'ai toujours décidé de m'écouter, et je veux pas mentir à mon public.
Là, c'était pas un non catégorique, du coup, j'espère.
Non, c'était un oui, du coup, forcément.
Trop bien, c'était intéressant, du coup, de pouvoir discuter avec toi tout ça. C'est intéressant de voir, du coup, de la suite et de ce qui vient pour toi en ce moment. On l'a dit, il y a eu une réédition de ton album, donc Étoile Flippante. J'aime bien, je vois à chaque fois les titres qui sont...
Oui, j'aime bien les jeux de mots.
J'aime beaucoup, avec, du coup, quatre titres en version inédite, orchestrale, qui sont dans cette réédition et que vous allez, du coup, pouvoir écouter. Tu veux d'ailleurs peut-être nous dire pourquoi ce choix de cette dimension orchestrale sur des sons?
Et bah, toujours cette histoire de vinyle. Mon papy me faisait écouter beaucoup de musique classique quand j'étais petite, dans sa chambre aussi, Beethoven, Chopin, tout ça, donc je découvrais à chaque fois les instruments d'un orchestre, et puis là j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire avec un vrai orchestre, et du coup je me suis dit bon bah c'est l'occasion, quoi. Et puis les chansons s'y prêtaient, là, donc je me suis dit bon bah encore un rêve de gosse, et puis ça, je me suis dit que ça allait faire plaisir à mon public, donc je l'ai fait. Et franchement, j'ai envie de faire un concert presque symphonique maintenant. Ça...
Incroyable.
Ouais, bah, c'est ma prochaine étape dans ma tête.
C'est ça je crois que c'est Radio France notamment qui fait beaucoup ce genre de choses.
Ouais, j'adore. Franchement, je suis, à chaque fois j'écoute, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller encore chanter, mais.
Ouais, super intéressant. On te le souhaite en tout cas, parce que ça peut être très 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 beau. Du coup, ça c'est dans la réédition de ton dernier album, et par ailleurs, il y a aussi une tournée dont on peut parler, qu'il faut quand même évoquer, avec notamment le Zénith de Paris, rien que ça, le 19 avril.
C'est ouf.
Et on a eu un petit Zénith, t'as eu un petit peu peur avec le Covid, et là, heureusement, on ressort.
Ça va, on l'a annulé, reporté 6 fois, mais c'est bon, là, c'est bon.
Il y a beaucoup de Zénith, c'est quand même... C'est fou.
C'est fou. Bah, disons que je jouais dans la rue, quoi, il y a 5 ans. Donc la vie est folle, voilà. Après, j'ai fait des petites salles ces derniers mois, et là, je vais en faire aussi, parce que j'ai besoin aussi de voir le public de proximité, c'est cool.
Oui, d'ailleurs, c'est une petite question d'ailleurs pour t'amener qui est intéressante, entre faire un concert dans la rue, dans un zénith, ou entre les deux, dans une salle de taille plus petite, c'est quoi le truc que c'est le plus simple à appréhender, c'est quoi? Parce qu'on entend parfois que la grande salle est au final peut-être moins intimidante, parce qu'on n'a pas le regard des gens à ce point.
Ouais, après, quand même, moi je regarde les gens, parce que du coup, avec mes vertiges et tout, je suis obligée de laisser un peu allumé, donc je vois le public. Okay. Donc je pense que ça va être plus impressionnant à Zénith qu'une petite salle, mais après, dans tous les cas, je suis pas quelqu'un de très stressé avant d'aller sur scène. Je panique pendant, parfois. Je me dis, c'est fou à chaque fois ce que je vis, donc je prends conscience des choses, donc je dirais que c'est peut-être... quand même, les petites salles, ça va, c'est quand même cool. Et mais les festivals aussi, pour l'énergie, où les gens, ils ont juste envie de sauter, et donc c'est cool aussi.
Oh, trop bien. Oshi, en tout cas, merci beaucoup.
Merci
pour ton temps. C'était super intéressant d'avoir de mieux connaître en fait ton parcours, hein, pour ceux qui te connaissent ou d'ailleurs qui te connaissent pas
et
te découvrent maintenant. C'était vraiment passionnant. Donc merci pour ton temps, et on va écouter du coup tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Oshi, c'est le moment vraiment d'aller découvrir ton travail, et pourquoi pas en concert. C'est une autre
avec plaisir
une autre façon de faire. Ça va être très sympa, notamment le 19 avril du coup au Zénith de Paris. Merci Oshi, c'était
merci à toi,
c'était génial.
Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.